c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Le sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Dans un instant, notre coup de cœur ciné consacré au film 38.5 Quai des Orfèvres qui a été primé Grand Prix au Festival de l'Alpe d'Huez. Son réalisateur Benjamin Lerer sera en ligne avec nous dans quelques instants. Et puis on aura le plaisir également de passer en revue notre coup de cœur télé de la semaine consacré à Tropic Criminel avec celui qui joue Phil dans la série. Valentin Papoudoff sera notre invité. Et puis à l'occasion de cette semaine spéciale fête de la musique qui sera donc mercredi, nous allons consacrer tout le reste de l'émission et bien la musique, justement avec 21 juin le duo qui va nous présenter son tout nouveau single intitulé C'est quoi ma place, et puis spécial The Voice avec Hayden, vous allez découvrir son titre Elle. Et puis en fin d'émission, c'est l'événement aujourd'hui, Aurélien Vivos, le grand gagnant de The Voice, sera notre invité exceptionnel.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré au film 38°5 Quai des Orfèvres qui sort mercredi dans les salles, le nouveau film de Benjamin Lerer qui justement avec nous. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors Benjamin, pour commencer, on va revenir sur cette histoire incroyable où toute l'équipe du film arrive à l'Alpe d'Huez pour le présenter en compétition. Et puis personne s'attend à ce dénouement totalement dingue avec carrément le grand prix du jury de l'Alpe d'Huez. Comment on réagit avec un peu de recul justement sur cette incroyable épopée au festival?
On savoure avec le recul, mais on est aussi content que l'histoire ait été aussi belle, parce que c'est vrai qu'on est arrivé, on était les derniers à passer en compétition, donc on sentait que le festival avait une vie, que c'était très très vivant et qu'il y avait eu plein de choses super qui s'étaient passées dans la semaine. On arrive en dernier, nous on est déjà hyper contents d'être là. On appréhende parce que effectivement ce film étant cet ovni un petit peu atypique, on a la pression et on espère que ça va être bien reçu par le public. Et même si le jury est là, à ce moment-là, on se dit bah c'est bien s'ils aiment aussi, on verra. Et puis la projection se passe merveilleusement bien. On parle avec les gens à la fin, on sent qu'il y a eu un vrai plaisir pour le public. Donc on est ravis à ce moment-là, mais on pense pas encore qu'on va avoir le grand prix. Et puis on va le découvrir le soir lors de la remise des prix, où on s'attendait pas à un prix, encore moins au grand prix. Donc on était heureux, fou de joie aussi, que autant qu'on a été surpris, mais heureux d'avoir traversé tout ça tous ensemble et que la conclusion soit aussi belle, quoi.
Alors le casting est dingue, Didier Bourdon, Caroline Anglade, Artus. Et c'est vrai que je pense qu'il a séduit le jury, certainement le public, c'est un peu un film inclassable. On peut pas dire que c'est une comédie pure, on peut pas dire que c'est un film policier pur. Il y a un peu de tout là-dedans, il y a de la comédie, il y a de l'humour noir, du policier évidemment. Et c'est teinté aussi un peu de film d'horreur, un peu, enfin quand on dirait plutôt Scary Movie, avec vraiment de l'horreur comique pour le coup. Il y a un petit peu de tout en fait, c'est un melting pot ce film.
Bah absolument, absolument. L'idée c'était vraiment de faire un film qui soit à la fois une comédie et en même temps un hommage à plein de films, parce que bon, moi à la base j'aime beaucoup les polars, mais mon esprit fait que j'aime bien tourner les choses en dérision, et donc du coup il y avait des films qui m'ont toujours marqué, comme Le Silence des Agneaux, qui est une référence dans le film, et plein d'autres choses, et donc du coup j'avais envie de traiter une enquête policière sous le ton de la dérision, du côté absurde, décalé, comme on avait pu le voir dans La Cité de la Peur ou Pamela Rose en France, mais aux États-Unis avec les Scary Movies, Y a-t-il un pilote, ou même les Monty Python, si on va, on remonte encore plus loin. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie que ce film soit teinté de tout ça, mais surtout que chaque personnage et chaque situation soit pas sur le même style de comédie, et qu'on puisse rebondir, comme vous l'avez dit, de l'humour noir à la comédie de répétition, en passant par la situation drôle, le visuel, les jeux de mots. Et donc, du coup, j'avais envie que chaque personnage apporte quelque chose et qu'on n'ait pas un seul type d'humour. Voilà, j'avais envie de rassembler tout ça et à travers ça, mettre des références à de nombreux films du cinéma qui nous ont tous marqués, quoi.
C'est le fil événement de ce début d'été, en tout cas Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez. Vous allez rire certainement, évidemment, beaucoup aussi. Ça s'appelle 38°5 Quai des Orfèvres. On va écouter la bande-annonce, Benjamin. On revient juste après, on rentre dans le vif du sujet avec l'histoire du film. À tout de suite.
Tu te démerdes comme tu veux, mais tu me boucles très vite cette affaire, sinon ta carrière s'arrêtera ici. Il n'y a pas une minute à perdre.
Je l'attrape par la queue. C'est le début d'une série, non ?
Nos campeurs ont été tués selon la comptine, une souris verte.
Il a été placé dans la coquille avant ou après sa mort ?
Merguez ou Chipo ?
J'avais encore jamais vu ça.
Ah oui, moi non plus, c'est rare d'avoir le choix. Hein. Pour moi, ça sera Chipo.
Alors Benjamin, on va rentrer dans le vif du sujet, on vient d'écouter la bande-annonce pour que les auditeurs voilà, s'imprègnent un petit peu de cette histoire. Alors on va y suivre Clarisse Sterling qui est jouée avec brio par une comédienne qu'on adore. Nous, c'est Caroline Anglade, évidemment, qui est une jeune enquêtrice pleine de vie, on va voir, et qui va se voir confier une affaire aux côtés du commissaire Keller, qui lui est une légende au Quai des Orfèvres, Didier Bourdon. Et c'est là qu'ils vont devoir justement tenter de résoudre une enquête qui va les mener sur les traces d'un tueur en série surnommé le Ver Solitaire. Déjà, ça commence bien, rien qu'en cadrant ça. Hein.
Oui, absolument, absolument. Et c'est vrai que le personnage de Caroline Anglade, à savoir Clarisse Sterling, c'est un personnage qui rêve d'arriver au 36 au milieu de tous ces grands flics. Elle se fait un monde de tout ça et c'est vraiment le rêve de sa vie pour elle d'arriver là-dedans, travailler avec le commissaire Keller. Et en fait, elle va tomber dans un environnement et dans une brigade qui fonctionne n'importe comment et avec des logiques qui sont du n'importe quoi. Et donc, elle va faire avancer l'enquête, parfois même malgré elle, parce que même elle a sa petite fantaisie aussi. Et tout ça fait qu'on avance dans l'enquête et dans l'histoire au fur et à mesure du film, tout en ayant des rebondissements multiples et des situations de comédie nombreuses, quoi. Donc, c'est vrai que le personnage de Clarisse Sterling, c'est un petit peu l'ingénue qui débarque au milieu des dingues, mais qui, en fait, s'avère pas si ingénue que ça, quoi.
Alors moi, j'ai l'impression que Didier Bourdon, il vous inspire tous, les réalisateurs, parce qu'après avoir terminé complètement à poil avec un disque entre les fesses dans Alibi 2, Didier Bourdon, là, il grimpe aux arbres, enfin, il fait des trucs improbables, quoi. C'est dingue.
Absolument. Alors Didier Bourdon, quand on parlait des références et des sources d'inspiration, moi, Didier et les Inconnus, ça a forcément été quelque chose qui m'a marqué dans mon parcours
et dans mon écriture
aussi. Et du coup, quand il a accepté et qu'il a eu envie de partir sur le film avec nous, bah, je savais où on allait emmener, même en sachant où on allait emmener le commissaire Keller, il a été encore plus loin que ce que j'imaginais. C'est vrai que c'était fantastique parce que, du coup, on était parfaitement dans cette tonalité-là, ce premier degré, parce que tous les personnages sont dans un premier degré, même si les situations se passent au deuxième, au troisième degré, même s'il se passe des choses derrière eux, ils sont toujours dans quelque chose de très sérieux. Et ce décalage, forcément, c'était magnifique. Et Didier avait envie, il nous disait sur le tournage parfois qu'il retrouvait le délire qu'il avait au début avec les Inconnus, quoi, dans leur début. Ils étaient dans des délires de situation ou de comédie qui étaient
assez proches
de ce qu'on faisait. Donc on était nous ravis d'être dans cette tradition là, quoi.
Quant à Pascal de Melon, il est flippant.
Pascal de Melon peut être très inquiétant,
ah, oui,
mais en même temps Pascal.
Mais on l'aime tellement.
Et son personnage, il le sert à merveille. Et ce qui nous permet justement d'avoir, comme je vous le disais, d'avoir plusieurs registres, que ce soit dans le polar comme dans la comédie. Et de créer des situations absolument délirantes quand on a un personnage comme Pascal qui fait peur et qui peut même terrifier le personnage de Clarisse et tout de suite derrière avec une rupture qui nous fait hurler de rire. Et Pascal est incroyable dans la rythmique, dans la comédie et puis dans la rupture avec Caroline. Je dois dire qu'ils se sont vraiment bien trouvés et au tournage, on sentait dès les premières prises qu'on allait avoir quelque chose de savoureux, quoi.
Bon, là, clairement, c'est la fête de la musique aujourd'hui, mais ça va être la fête du cinéma. Est-ce que choisir de sortir son film le jour de la fête de la musique, faut le faire quand même. Et là, comment on se sent à deux jours, justement, de cette sortie, où le film va appartenir au public, alors que quatre mois avant, il avait même pas de distributeur. L'histoire est tellement belle.
Absolument. Bah, on est aussi soulagé qu'on est un petit peu inquiet parce que on a envie de faire plaisir aux gens et que les gens aiment le film. On a mis beaucoup de nous et on s'est tous investi énormément pour essayer de faire une proposition au public qui soit originale et qui soit un petit peu différente de certains codes habituels. Donc on espère que le public le recevra bien. Le fait de sortir un film le jour de la fête de la musique, ça colle aussi un petit peu avec l'univers de nos personnages qui font toujours des choses un petit peu en décalé, être dans l'absurde, ça marche aussi très bien.
C'est
clair. Donc du coup, c'est un petit peu cohérent avec notre histoire et nos personnages.
C'est un clin d'œil.
Et après, exactement. Et on se dit que les gens pourront participer à la fête de la musique et dans la journée s'offrir une petite pause en allant se prendre une heure et demie de fou rire et après retourner à la musique et éventuellement, voilà, nous on est là et on espère que le public sera là nombreux et qu'on pourra... Parce que c'est un film où il y a tellement de choses, au premier plan, à l'arrière-plan, des détails de partout, que c'est un film qui peut être agréable à voir et à revoir, voire même échanger avec d'autres, parce qu'il y a des situations où certaines personnes auront vu des choses et d'autres en auront vu d'autres. Donc on espère faire plaisir à tout le monde.
Bon, et puis ça, c'est sa première vie. Hein. Après, il y aura une deuxième vie dans quelques mois en VOD, c'est en ça. DVD, et puis à la télévision aussi. Et on sera là, évidemment, pour s'en faire l'écho aussi. Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin, d'avoir été avec nous. On rappelle que 38 degrés 5, Quai des Orfèvres, ça sort mercredi dans les salles. C'est le film de ce jour d'été, à ne pas manquer, en tout cas. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci, au revoir.
Rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé consacré à Tropic Criminel. Toutes les semaines, on passe en revue les personnages de votre série préférée. Ça cartonne le vendredi et c'est celui qui incarne Phil que l'on a avec nous aujourd'hui, Valentin Papoudoff, qui est avec nous. Bonjour Valentin.
Bonjour, bonjour Alain, bonjour à tous, à toute la Nouvelle-Aquitaine. Et à tous les autres aussi.
Ben oui, parce qu'on nous écoute un petit peu partout également sur notre site internet, on écoute la télé.com, on le rappelle. Valentin, c'est la caution drôle, c'est la caution toujours un peu comique, on va dire, des choses dramatiques des fois qui peuvent arriver dans la série, comme la découverte des corps ou des meurtres qui peuvent s'y dérouler. Mais il a toujours des explications qu'on finisse pas. Et ça a le don que Crivelli et Sainte-Rose l'arrêtent souvent ou le remettent un peu, on va dire, dans ses 22, hein, comme on dit. Mais on l'aime pour ça aussi, je crois, Phil. Hein.
Oui, tout à fait. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'aime incarner ce personnage. Et c'est vrai qu'il a plusieurs facettes, notamment une facette très touchante, parce qu'il est passionné, en fait, de son travail. Il est très, très érudit, il a énormément de connaissances sur énormément de sujets différents. Et il se rend pas toujours compte de la place qu'il prend à un moment où on n'a pas le temps. Il faut que ça aille vite, il faut aller à l'essentiel.
Ouais.
Et il adore faire des digressions et rentrer dans les détails, d'où le fait, en effet, que ça puisse un peu exaspérer Sainte-Rose ou Crivelli à l'instant où ça se passe, où ça se produit, exactement.
Il s'est fait de sacrés films sur Sainte-Rose au début, hein, quand même, hein.
Oui, c'est vrai. Je crois que c'est lui, en tout cas, est très amoureux de sa femme. Et c'est vrai qu'il a pas, là, il a plutôt le nez dans les bouquins, dans son labo, sur son ordi, etc. Donc c'est vrai que quand le regard d'une collègue, de sa supérieure, change un peu sur lui, puis qu'il y a quelques gestes tendres, même s'ils sont très très anodins, très innocents, il les interprète totalement différemment. Et il en parle d'ailleurs à son collègue Aurélien, qui se prive pas pour lui faire une blague, quoi, en fait, en lui disant oui, je pense que t'as raison, en effet, elle a des vues sur toi. Et Phil est très inquiet puisque c'est quelqu'un d'intègre. Il dit mais moi je suis marié, j'aime ma femme, faut que je lui parle, quoi. Je peux pas avoir une aventure avec Sainte-Rose. Puis je crois que même s'il est comment dire, il est conscient que c'est une belle femme. Je crois qu'il est vraiment.
C'est pas envisageable pour lui.
Non, pas du tout. Ouais. Il faudrait qu'on le drogue ou lui pourrait pas faire ça. C'est pas possible dans sa tête, dans sa morale, dans son cœur. C'est sa femme et c'est tout.
Donc voilà, et ça crée du coup le quiproquo et le décalage et donc l'humour dans la situation. Oui.
Ce tournage en Martinique, ça doit laisser aussi des souvenirs inoubliables en dehors du tournage quand même.
Ah bah bien sûr, c'est vrai que c'est une aventure. Moi, ça a été une chance aussi parce que j'ai eu l'occasion, grâce au projet, de découvrir la Martinique, dont j'entendais parler depuis une trentaine d'années parce que j'ai un oncle qui est martiniquais.
Ah oui.
Que je salue, voilà, si jamais il nous écoute, Jean-Luc, un gros bisou. J'avais pas eu l'occasion avant 2019, tournage de la première saison, d'y aller. Du coup, j'ai découvert la Martinique, j'ai rencontré des gens fantastiques, des paysages incroyables, une toute autre culture. C'est la France et en même temps, on est de l'autre côté de l'océan, donc il y a quand même presque, je crois, 8000 kilomètres de distance, 6 heures de décalage horaire. On est dans les Caraïbes. Le rythme est pas du tout le même. Il y a pas vraiment de saison à part la saison des pluies, mais sinon le soleil se lève très tôt et se couche aussi relativement tôt. Donc les journées de tournage, généralement, on se lève aux alentours de 5h du matin, 5h30, 6h pour avoir un pick-up à 7h et pour commencer à tourner à 8h pour des raisons de lumière, etc. Et c'est vrai que ça a été comme c'était aussi un choix dans l'approche, dans la narration, de vraiment faire en sorte que la Martinique soit aussi représentée comme un personnage qu'on découvrirait. On a eu la chance d'aller dans des décors très différents et très variés, auxquels on n'aurait pas forcément eu accès si on avait été simplement touriste, je dirais. Donc on est privilégié, ça ne fait aucun doute, ouais. Tout à fait.
Bon, c'est le père de Crivelli dans l'épisode que l'on va voir justement vendredi, qui va être le premier suspect dans une affaire assassinat ou tout simplement euthanasie, aide à l'euthanasie. Ça va être aussi un débat qui va se poser justement dans cet épisode. Mais le père de Crivelli va se retrouver en première ligne dans cette histoire.
Tout à fait. Et ça laisse présager pas mal de rebondissements, enfin d'émotions surtout. C'est vrai que c'est Gaëlle a tendance à cacher ça parce qu'elle est très pudique, mais c'est vrai que là elle est obligée de s'ouvrir un peu et c'est toujours délicat pour elle parce que c'est spontanément, c'est pas dans sa nature, donc mais il y a des choses qu'on peut pas garder sous le tapis et qu'il faut mettre au grand jour, donc les gens vont découvrir ça vendredi exactement.
Alors Valentin, est-ce qu'il y a des projets, est-ce que ça laisse le temps de faire d'autres choses, Tropique Criminel?
Alors, ça laisse le temps. Alors après, c'est vrai que généralement, c'est une période de l'année qui est assez chargée. Il y a des périodes beaucoup plus calmes. Là, ce qui est parfois compliqué, c'est que je suis en Martinique. Alors là, il s'avère que je suis à Paris parce que je joue au théâtre, justement, à la Comédie de Paris, dans Les Feux de l'amour et du hasard.
Ouais.
C'est 6 représentations par semaine. Et après, j'ai en alternance avec moi Julien Schmitt, qui reprend le rôle au moment où moi je repars en Martinique, puisqu'on tourne actuellement la saison 5.
Et oui.
Et je repars en Martinique fin juin jusqu'à fin juillet.
Et oui.
Et quand je rentre fin juillet, je reprends le théâtre. Petite période de vacances pour profiter aussi de ma compagne et de mes enfants. Et puis après, retour au théâtre. Et après, rentrée, festival, Angoulême, La Rochelle. Enfin voilà, on est un peu... Donc ça laisse... Pendant cette période, le tournage, c'est 4 mois. Moi, contrairement aux filles, je suis pas pendant 4 mois en Martinique. Je fais des allers-retours. J'essaie de concentrer plutôt les dates de manière à me laisser aussi du temps pour ma famille et puis aussi pour d'autres projets parce que j'ai besoin en fait aussi d'aller chercher d'autres énergies, d'être dans d'autres cadres. De pas rester enfermé dans quelque chose. Vraiment, j'adore le théâtre. C'est le fait d'être sur scène en contact direct avec les spectateurs.
C'est autre chose, c'est une autre émotion.
Ah oui, oui, complètement. Donc, c'est vrai que je prends un énorme plaisir à tourner, notamment dans Tropique Criminel. Et c'est vrai que le personnage de Phil est un personnage pour lequel j'ai énormément d'affection. Et là, je remercie les auteurs qui ont écrit de très belles choses pour la suite. Je n'en dis rien, mais les gens découvriront. Et voilà, mais c'est vrai que oui, il faut s'organiser, quoi. Donc, je voudrais tout faire. Malheureusement, je ne peux pas. Voilà, ça demande une gymnastique. Donc, il faut que je travaille un peu ma souplesse pour pas me faire mal au dos dans cette gymnastique-là.
Bon, si j'ai bien compris, on aura l'occasion de te voir dans notre région, en tout cas fin août au Festival d'Angoulême et en septembre au Festival de la Fiction, du coup, à La Rochelle.
Bah c'est ce qui est prévu, oui, tout à fait. Donc normalement, oui, on devrait se croiser là-bas, ça sera un grand plaisir, ouais.
Bon, mais écoute Valentin, rendez-vous est pris, on t'attend. En tout cas, chez nous, on sera là pour t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On te retrouve dans le personnage de Phil, évidemment, vendredi. Ça sera 21h10 dans Tropique Criminel, juste après un si grand soleil. Merci à toi et on se dit à très vite.
Merci Alain, à très bientôt.
Visiblement, la victime prenait son petit déjeuner quand il était agressé. Il a été frappé avec un objet contondant. Ensuite, il a été étranglé. Si la femme de ménage n'était pas arrivée, il serait sûrement mort.
Et vous pensez qu'elle a dérangé l'agresseur ?
Même si elle a vu personne, c'est probable. C'est elle qui a prévenu les secours.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va continuer notre balade en musique avec le groupe 21 juin, le duo qui est donc avec nous. Manon et Julien sont en ligne. Bonjour les amis.
Bonjour.
Eh oui, bonjour Alain, bonjour à tous.
Quel bonheur de vous entendre et surtout à l'occasion d'un nouveau titre que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui qui s'appelle C'est quoi ma place? Et oui. Eh bien, on espère annonciateur d'un album à venir, mais en tout cas, on ne désespère pas, on va en parler dans un instant évidemment. Mais tous les deux, eh bien, dites-moi un peu depuis cette dernière rencontre, il y a un peu plus d'un an, il s'en est passé des choses, j'ai l'impression.
Oui, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai qu'on s'était vu dans nos terres natales près de Royan, et puis enfin dans mes terres à moi en tout cas, parce que maintenant c'est plutôt la montagne. Et bah écoute, il s'est passé qu'on a beaucoup écrit des nouvelles chansons, on a beaucoup composé, on a commencé aussi à écrire pour d'autres artistes, et voilà, on était vraiment dans une phase de création, on va dire. Et là, on est heureux de sortir des nouvelles chansons. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti de titre et ça fait du bien.
Ben oui, j'imagine bien. Alors, en plus, alors mercredi, hein, après-demain, vous êtes à Rungis en concert. Vous serez le 27 juin également au Hasard Ludique. Vous serez à Châteaumeillan dans le centre de la France le 22 juillet. Et vous serez à Festivo le 2 août. Et là, je crois que pour toi, Julien, ça va être un grand moment parce qu'il va y avoir toute ta famille là.
Eh oui, oui, c'est clair. Ouais, Festivo, ça fait vraiment plaisir. C'est un festival auquel je participe en tant que spectateur depuis pas mal d'années. J'aime beaucoup ce festival et on est ravis d'y jouer. On va jouer cette année avec les Frangines, donc en plus qu'on connaît un petit peu, on les a croisés plusieurs fois. Donc ça va être vraiment une belle soirée, je pense.
Bon, et puis nouveau titre, C'est quoi ma place? On va y revenir dans un instant. Mais reparlons un peu du parcours. Pour ceux qui vous connaissent pas, comment vous définiriez tous les deux?
Eh bien, nous sommes un duo à la vie et à la scène. Donc on est en couple dans la vie. Et en couple aussi sur scène, du coup. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pop, on fait des chansons en français, on fait de la fête, beaucoup quand on fait des concerts. Et voilà, on aime les gens et on aime la vie.
Mais ça se sent dans vos chansons, ça se sent en tout cas dès que ça passe à la radio, voilà, ça donne envie de bouger, ça fait vraiment des chansons d'été, ça tombe bien en fait, hein, parce que vous allez voir que C'est quoi ma place, finalement ne déroge pas à la règle, mais franchement moi j'ai un coup de cœur pour le titre aussi, peux-tu me dire, que j'ai adoré, et moi j'aimerais bien qu'on écoute un extrait, si vous voulez bien. On y va? Allez, on écoute. 21 juin, le duo, à deux jours de la fête de la musique, sont nos invités, on va écouter. Écoutez leur titre, peux-tu me dire? Et après, attention, on va vous faire découvrir leur tout nouveau single.
Hey, toi, peux-tu me dire pourquoi j'ai si peur dès que j'inspire?
Hey, toi, sais-tu prédire ce qu'est l'avenir?
Hey, toi, peux-tu convenir à mesure que sur la corde on tire?
Hey, toi, peux-tu décrire ce qu'il y a de pire?
Tu cries, mais c'est pas moi, tu fais n'importe quoi.
Juin Ludo, on va découvrir dans un instant leur tout nouveau single. C'est Manon et Julien qui sont avec nous. Je vous rappelle qu'ils avaient concouru pour représenter la France à l'Eurovision. Eh ben, on aurait préféré vous avoir, hein, quand même, tous les deux, que ce qui s'est passé cette année. Mais bon, après, moi, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, ça a été une belle aventure, ça aussi. Puis depuis, vous continuez votre bonhomme de chemin. Et je crois qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour la fin de l'été, puisque vous reviendrez à la rentrée, mais nous présenter ce coup-ci, hein.
Un EP,
ouais, c'est ça, un mini-album.
Enfin
Mais ouais, il y a 6 titres qui vont être disponibles. Donc il y a C'est quoi ma place est sorti et puis il y aura 5 autres titres. Si tu verras, c'est assez varié musicalement, il y a des balades aussi dessus. Enfin voilà, musicalement, on s'est permis plus de liberté. On a un peu arrêté de faire que des chansons positives et solaires, il y a des chansons avec plus de fond, plus de propos, plus personnelles aussi. des synthés, un côté un petit peu rock, un peu plus engagé voilà, dans le propos.
Et pour le coup, vous prenez votre temps entre chaque titre, parce que je crois que vous prenez vraiment le temps de bien soigner tout, vraiment l'écriture, les arrangements, la composition. Vraiment, vous mettez un point d'orgue à soigner tous les titres que vous sortez. C'est pour ça aussi peut-être que vous en sortez pas comme certains tous les mois.
Eh ben, tu as raison. En fait, déjà, on a deux personnalités assez exigeantes l'une et l'autre. Mmh. Donc, on l'est encore plus l'un avec l'autre. Donc, ça donne des gros débat. Temps de
débat.
Et c'est peut-être ce qui fait qu'on prend effectivement notre temps. Mais on aimerait bien accélérer un petit peu la cadence. Donc, c'est probable qu'on sorte beaucoup de choses là cette année. Voilà, qu'on soit un petit peu plus productif et plus riche en découvertes, en dons de soi.
Eh bien, en tout cas, le clip est sorti depuis maintenant une dizaine de jours. Ça s'appelle C'est quoi ma place? Et vous avez un guest de choix, hein, et qu'on connaît bien, nous, dans l'émission, dans ce clip.
Oui, on a beaucoup de chance d'avoir Michel Simès, en fait, pour la petite histoire. On rêvait de faire un clip où une thérapie de couple, en fait, ce clip. Donc, c'est un peu autobiographique, hein. C'est quoi ma place? On se pose beaucoup de questions. On avait envie d'avoir un psy qui serait quelqu'un qui incarnerait l'autorité médicale, etc., la société. Et on a pensé à qui on connaît comme médecin connu. Et il y avait Michel Simès qui était donc un médecin très connu.
Bien sûr.
On ne connaissait pas. Et puis, on a tenté le coup. On lui a fait un mail. Et puis, il a eu la gentillesse de répondre. Il se trouve qu'il vient en vacances à la CUSA tous les ans. Donc, on a profité de sa venue. Et on s'est calé sur son planning et il nous a fait la gentillesse de participer au clip, quoi.
Bon, alors tous les deux, c'est vrai que c'est un peu le yin et le yang quand même, hein, pour ceux qui savent pas. Toi, t'es plutôt Atlantique et Manon, du coup, est plutôt Alpes. Donc vraiment, entre les deux, est-ce que vous trouvez un terrain d'entente à Clermont-Ferrand à un moment donné ou pas?
Eh ben, c'est une très bonne idée, figure-toi.
Finalement, on va emménager là-bas. Non, en fait, on se nourrit des deux. Tu vois, moi, on adore être dans le coin de Royan, vers ma famille. On adore aussi être avec la famille de Manon, plutôt dans les montagnes. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir un métier qui nous permet de voyager. En fait, on est rarement chez nous, donc ça, c'est cool.
Bon, ça s'appelle C'est quoi ma place? Je vous rappelle que vous serez mercredi en concert à Rungis pour la fête de la musique. Mmh. Vous serez également le 27 juin au Hasard Ludique, le 22 juillet à Châteaumeillan dans l'Indre, et puis vous serez le 2 août au Festival à Faux-sur-Mer à côté de Royan. Bref, j'espère qu'on va entendre parler beaucoup de vous. En tout cas, on va découvrir C'est quoi ma place, votre tout nouveau single, et puis vous reviendrez à la rentrée dans Chute on écoute la télé, justement à la fin de l'été, pour nous présenter cette EP qui va sortir très prochainement. On écoute maintenant, merci beaucoup.
Merci Alain, merci pour l'accueil et puis
à très vite.
Vous embrasse très vite. Très fort. C'est quoi ma place?
Merci,
c'est 21
merci.
Juin Ludo, c'est maintenant.
Je suis pas ange, je suis pas démon. Ça te dérange? C'est ma question.
Elle est où ma place?
Attitude.
Eden, qui a été découvert dans The Voice, qui est avec nous, qui est un peu un voisin de la Nouvelle-Aquitaine, quand même, il faut le dire, hein, du côté de Nantes. Eden, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Eden, une émission qui est en train de changer ta vie, j'ai l'impression quand même, hein.
Oui, franchement, j'ai une chance énorme d'avoir pu participer à cette émission, c'est clair.
Alors toi qui es infirmier en réanimation à Nantes, comment on passe de ce parcours-là pour arriver justement dans une émission comme The Voice? Quel est ce parcours de vie que tu as envie de nous raconter ce matin?
Eh ben, en fait, il faut savoir qu'il y a plein de petites étapes pour pouvoir arriver aux auditions à l'aveugle de The Voice. Et comment on y arrive? Par la passion de la musique. Et puis, on se dit, pourquoi pas nous? Et c'est vrai qu'en fait, à chaque étape, moi, je me suis dit, j'avais un peu de mal à croire ce qui m'arrivait. Parce que, il y a un peu ce sentiment un peu d'illégitimité, forcément. Et puis, on se dit, c'est quand même incroyable. Enfin, cette année, il y a quand même eu énormément de candidatures. Donc, voilà. Je sais bien que c'est une énorme chance de pouvoir participer à cette émission.
J'imagine que t'es devenu la coqueluche du service réanimation.
Oui, on peut dire ça, ouais.
J'imagine la tête des collègues, hein, tous les soirs, le samedi, en train de se faire des petites projections ensemble pour regarder ce parcours. Le coach que tu as choisi, pourquoi? Pourquoi tu as été dans son équipe?
Alors moi, j'ai eu un seul coach qui s'est retourné, c'était Bitréoli. Et il s'avère que au tout départ, j'étais assez surpris qu'il se retourne. Et puis finalement, en fait, en regardant un petit peu plus leur histoire, en regardant un petit peu plus leur discographie, leur culture musicale, il s'avère que c'était extrêmement logique qu'ils se retournent. Et il s'avère que c'est en plus des coachs qui sont hyper sympathiques, hyper bienveillants. Ils nous mettent tout de suite à l'aise. Ils sont très familiers avec nous.
C'est plutôt bien tombé, quoi.
Ah ouais, franchement, ouais. franchement, je suis très heureux d'avoir été dans leur équipe.
Comment on maîtrise son trac ou cette appréhension peut-être juste avant de rentrer sur scène, quand on regarde, qu'on voit qu'il y a ces quatre fauteuils qui sont retournés et que ben, pendant toute la chanson, non seulement il faut se concentrer sur la chanson qu'on va chanter, qu'on va interpréter avec nos tripes et en se disant dans notre tête, putain, allez, pourvu qu'il se retourne.
Bah, en fait, moi, je me suis dit, surtout, ne pense pas à ce qui pourrait arriver, juste
kiffe le moment
présent. C'est ça. Sois dans le moment et ce sera le plus important.
Et ça t'a donné envie de te professionnaliser complètement et de consacrer ta vie à la musique aujourd'hui, hein, je crois.
Ouais, depuis deux mois maintenant, je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut y aller, sinon, je vais avoir des regrets dans la vie. Et pour moi, le plus important, c'est de pas avoir de regrets. Rien ne m'empêchera de retourner à mon travail, d'infirmier, si besoin en est. J'ai décidé en tout cas de me donner ce temps-là pour pouvoir aller au bout de mes ambitions, au bout de mes rêves.
J'ai l'impression que ton parcours de vie a marqué les spectateurs et a marqué évidemment tes coachs, mais aussi l'émission. Et c'est vrai que c'est un parcours de vie, on parle beaucoup du personnel soignant en ce moment, donc c'est assez chouette de poursuivre ses rêves aujourd'hui comme tu le fais en tout cas.
En fait, je me suis dit il faut absolument y aller sinon je vais avoir des regrets premièrement, et puis surtout en fait aujourd'hui je me dis le métier d'infirmier est clairement en lien avec la chanson, en tout cas dans mon histoire, et pour moi c'est un puits d'histoire, de sentiments, d'émotions, et ça me permet vraiment de pouvoir puiser là-dedans et de me dire bon, j'ai envie de mettre ça en lumière, il faut que je m'exprime, et en fait la musique a été pour moi un moyen de m'exprimer sur toutes les expériences qui ont des fois été douloureuses pour des patients, pour moi, pour mes collègues, enfin il y a plein de situations différentes qui ont pu se passer, et c'est vrai que d'arriver chez soi, des fois on a un peu le cœur lourd quand il s'est passé des choses dramatiques, ça nous ramène à notre histoire, à nos proches, donc c'est vrai qu'il y a des moments c'est pas toujours simple, mais dans l'ensemble, très honnêtement, on garde le côté très positif et optimiste, en tout cas dans l'équipe et même au quotidien.
Alors, on va parler du titre Elle d'ici quelques minutes, hein, évidemment, puisque c'est un titre que tu as écrit, t'as composé aussi. Et on va d'abord écouter ce premier single que t'as sorti justement au moment de ta participation à The Voice, qui s'appelle Cerf-volant bleu.
Oui, ce titre-là, en fait, est un titre pop électro dans les sonorités. Avec Martin Mansuy, qui est la personne qui a produit le titre, on a décidé vraiment de faire quelque chose d'assez aérien, de revenir sur des couplets qui étaient un peu plus bruts et nous ramener un petit peu plus au sol. En fait, dans ce titre qui est assez métaphorique, j'ai voulu vraiment mettre en lumière le fait qu'il y a des doutes, des fois, qui persistent dans une relation amoureuse, qu'on soit au début et jusqu'à la fin. Il y a toujours des fois... Il y a des relations comme ça, il y a toujours ce doute qui reste ancré. Et des fois, il faut peut-être savoir l'écouter et se dire peut-être que s'il est présent, c'est peut-être pour une bonne raison. En fait, j'ai écrit ce texte pour une personne en fait proche de mon entourage et j'ai vraiment voulu, en l'écrivant, cette personne passe à autre chose, quoi, qu'elle se dise ok, c'est une histoire, c'est un pan de ma vie, mais finalement, c'est pas une finalité, quoi. Et c'est vraiment mon but entre chaque titre, en tout cas, c'est ma flamme, si vous voulez, de me dire ce qui serait intéressant, c'est ok, on en fait une histoire douloureuse. Bon, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que j'en fais? Donnons du sens à tout ça. Et surtout, essayons de nous en libérer. C'est pour ça que sur les refrains, j'ai vraiment voulu avoir quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de plus rythmique, en gardant l'émotion, en tout cas.
Eh bien, on l'écoute maintenant. Ça s'appelle Le Cerf-volant bleu, Eden, que vous avez découvert dans The Voice, qui est avec nous aujourd'hui à l'occasion de cette émission spéciale fête de la musique. On l'écoute maintenant. On revient juste après avec toi, Eden.
Dans ce parc, c'est moi. Cerf-volant peut s'en aller, s'envoler dans la houle. Regarde notre cerf-volant bleu s'envoler, s'envoler dans la foule. Mais le cerf-volant bleu volait, le cerf-volant bleu doutait. C'est bien ça qui met en tension, fais attention. J'ai toujours un doute, même en plein mois d'août. J'ai toujours un doute, même en plein mois d'août.
Allez, on a parlé de The Voice, eh bien on va parler un peu aussi de tes projets, de tes envies du futur maintenant, Eden qui est avec nous, vous avez découvert dans The Voice, après le cerf-volant bleu qu'on vient d'entendre, on va écouter Elle d'ici quelques instants, qui est ton deuxième single qui vient tout juste de sortir. Eden, c'est quoi tes envies aujourd'hui? Est-ce que justement ces deux singles amènent peut-être cette envie de futur album, futur premier album dans l'année ou l'année prochaine?
Là, en fait, je suis vraiment dans la construction de mon répertoire petit à petit. Donc, toujours avec Martin Mansuy, puis je commence un petit peu à m'entourer d'autres personnes que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure du temps. Mon envie, ce serait vraiment de, comme je disais juste avant, c'est de prendre des histoires ou des sujets de société qui soient un petit peu soit dérangeants, soit que, en tout cas que j'ai envie de mettre en lumière, notamment pour le prochain single, elle, c'est vraiment le thème du cancer que j'ai voulu mettre en lumière, me dire pourquoi pas prendre ce thème qui est douloureux en tournant un petit peu le prisme, en se disant au lieu de voir le côté très sombre de cette histoire, voyons peut-être les choses positivement, parce que c'est vrai que moi, tous les patients que je me suis occupé qui étaient atteints de cette pathologie, et j'ai rarement eu des gens qui étaient très négatifs. Bien sûr, il y a des moments où ils le sont, bien sûr, mais en règle générale, on est vraiment sur des personnes qui se battent, qui ont vraiment cette envie de vivre en fait très forte. Et moi, ça m'a toujours énormément touché, ça m'a toujours ému, des fois jusqu'aux larmes. J'ai plein d'histoires qui me viennent à l'esprit là actuellement.
Ah oui, j'imagine bien. Il a vécu quand on travaille dans un service de réanimation, voilà, on voit peut-être des belles histoires, mais aussi malheureusement des histoires dramatiques.
Et ouais, il y a de tout. Je peux pas dire le contraire. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment rendre hommage de manière positive. Donc c'est vrai que le texte, si on le prend tel quel, est assez négatif. Et c'est pour ça qu'avec Martin Mansuy, on a décidé un petit peu de prendre le texte à contre-pied. En tout cas, on a fait une production qui est beaucoup plus dansante, rythmique, avec des vibes un petit peu années 80. On a vraiment voulu mettre cet optimisme, en tout cas, dans la production du titre.
Ouais, avec un brin de slam aussi, hein. Il y a un petit peu de slam aussi dedans.
Exactement. Parce que ça, c'est une autre phase de ma personnalité que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup le slam et j'ai du mal à faire sans le slam, parce que pour moi, si on arrive à faire passer des émotions juste en parlant, voilà, ça, pour moi, on a quand même réussi quelque chose de fort. Et c'est vrai que le pont slamé, en plus, permet justement une redescente pour ensuite avoir une réouverture sur le refrain. En tout cas, j'ai vraiment voulu mettre en place le sentiment d'espoir qui est pour moi hyper important. Et c'est ce qui se dégage de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, tous les patients que j'ai pu rencontrer qui avaient le cancer. Donc c'est pour ça que elle se veut optimiste, en tout cas.
Eden, on imagine bien que aujourd'hui la musique, c'est pas pour être en studio forcément, enregistrer des titres et sortir des singles comme ça. Je pense que t'as des futures envies de scène, que t'as envie d'aller à la rencontre du public par la suite.
Exactement. Donc là, je suis en préparation. J'ai trouvé des musiciens, en tout cas pour l'instant temporairement.
Ouais.
J'essaie de me trouver des musiciens petit à petit sur Nantes pour pouvoir créer un set. En parallèle, j'élargis tous mes titres, toutes mes productions pour pouvoir proposer en fait quelque chose de personnel, tout en choisissant des reprises aussi qui me touchent et pour pouvoir ensuite aller faire des scènes, naturellement, ça serait l'essentiel en tout cas. C'est là où on exalte plus finalement.
Est-ce qu'il y a des titres à l'avenir que t'aimerais collaborer ou avec des duos? Est-ce que t'as des rêves dans ce sens-là? Est-ce qu'une collaboration avec Big Flo et Oli sur un titre, par exemple, à l'avenir pourrait être envisageable? Ou tout simplement, est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels tu rêves de collaborer aujourd'hui en France?
Ah bah ça, avec Big Flo, ça serait une chance immense. Après, j'imagine qu'il y a autre chose à faire, mais bien sûr, ça serait une chance immense. Un artiste avec qui j'aimerais vraiment pouvoir chanter un jour, ce serait Ben Azu, par exemple. J'avoue que c'est une grande référence chez moi. Ou Edith de Préto, par exemple, aussi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le groupe La Femme, pour leur rythmique, pour leur sonorité, leur musicalité. Je trouve qu'ils sont quand même très bons dans ce qu'ils font. J'aime beaucoup aussi Gaël Faye. Enfin, voilà. Il y a quand même beaucoup de gens. Après, de manière plus proche, ça serait, ouais, peut-être une chance immense. En tout cas, j'aimerais pourquoi pas un jour faire un duo avec Élise, par exemple, qui a participé aussi à The Voice, qui a un grain de voix exceptionnel, une émotion et une pureté qui me touche énormément. Elle me désarme, cette femme me désarme complètement. Je trouve qu'il y a une élégance qui en ressort, elle a un charisme de dingue, et donc ce serait juste un honneur de pouvoir partager un titre un jour avec elle.
Bon, on va découvrir elle ensemble.
Ouais, avec grand plaisir.
Eh ben écoute, Eden, merci d'avoir été avec nous. On va découvrir, elle, ton nouveau single. Et puis t'hésite pas, tu reviens quand tu veux, évidemment. Et puis quand l'album
merci
sera là,
vous.
On sera là aussi, évidemment, pour en parler.
Merci beaucoup.
Merci à toi. On écoute tout de suite, elle, nouveau single d'Eden, qui est en ce moment eh bien disponible sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légales. Merci beaucoup à toi.
Merci, bonne journée.
On l'écoute tout de suite.
Toujours veillant dans la nuit d'hier. Yeah.
Allez, bougez pas, Aurélien Vivos, le grand gagnant de The Voice débarque dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. La découverte musicale. Chut, on écoute la télé.
Allez, on va terminer cette émission spéciale fête de la musique avec celui qui a illuminé vos soirées de TF1 dans The Voice, le grand gagnant de cette nouvelle édition, Aurélien Vivos, qui est avec nous. Bonjour Aurélien.
Et salut, je suis content d'être avec vous.
Écoute, nous aussi, on est très content de t'avoir, mais franchement, mais quelle aventure. C'est une vie qui bascule du jour au lendemain, là, c'est le cas de le dire.
C'est incroyable. Et là, pour être honnête, là, bon, je suis chez moi, là. J'ai l'impression que je dois repartir dans quelques jours pour refaire un prime. J'arrive pas à me dire que c'est fini, en fait, qu'il n'y en a plus, et que j'ai gagné The Voice. J'arrive pas à me dire ça, en fait. C'est trop bizarre.
C'est absolument dingue. Si on fait un petit retour en arrière, qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à participer à The Voice? Quel a été le déclic?
Alors, il n'y en a pas eu, parce que je n'ai pas voulu faire l'émission, en fait. C'est eux qui sont venus me chercher, grâce à une vidéo qui est sur YouTube. Donc, voilà. Donc là, c'est bien pour tous ceux qui font des covers. Ils sont à l'affût, ils cherchent, voilà. Et ils sont tombés sur une vidéo d'un concert qu'on avait fait le 1er juillet. C'était mon premier concert en tant que semi-professionnel, entre guillemets. Et ils m'ont repéré comme ça. Et ils nous ont appelé si on voulait participer. Et nous, on a dit non. Alors, quand je dis nous, c'est parce qu'il y a Eric, le pianiste, avec moi. Et Véronique Martinez, mon amie depuis 17 ans et manager maintenant. Et donc, voilà. Quand ils ont appelé, on a refusé. Ils ont insisté, ils ont dit monte à Paris, on va se rencontrer et puis vous allez nous dire qu'est-ce qui vous inquiète. Ils nous ont rassuré, vraiment, enfin, ils m'ont rassuré, ils ont été très bienveillants, très très sympas et voilà. Et ça y est, on arrive en finale et on gagne. C'est incroyable.
Les premiers mots de Zazie pour toi, ça a été quoi à ta victoire?
Alors Zazie, elle était ravie parce que en fait c'est une victoire. J'ai gagné, mais c'est plus fort que ça. Ça a pris une ampleur. Je sors des cases en fait, et là c'est même pas ma voix. Enfin bien sûr que la voix ça y a fait, mais c'est tout le reste autour. C'est l'amour de ma famille et des amis en fait qui est devenu un amour national un peu quoi en quelque sorte. Et elle était contente que c'était la victoire de ça en fait. C'était un beau message et je trouve ça magnifique.
Quand t'as pris conscience du pourcentage de gens qui avaient voté pour toi, parce que vous étiez quatre quand même, et je crois que t'as pris 60% ouais. Des voix à toi tout seul. Hein.
68%, ouais.
Non, mais c'est complètement dingue. Plus de 60% à toi tout seul, quand même. Vous étiez quatre. Faut pas oublier, ouais. Rester des miettes, hein, pour les autres. Quand t'as pris conscience de cet amour, justement, du public et que, bah, toutes les émotions que t'avais données pendant tous ces primes et toutes ces prestations, ben, elles ont été comprises, elles ont été, justement, elles ont transpercé le cœur du public. Tu l'as réalisé, ça, tout de suite ou pas?
Oui, un petit peu, mais toujours pas, parce que j'arrive pas à imaginer qu'on puisse faire ça pour moi, mais en même temps, par respect pour tous ces gens-là qui ont voté pour moi, qui ont regardé, il faut vraiment que je fasse honneur à ça. Je le dis vraiment parce que là, je prends ça comme une responsabilité, une belle responsabilité. Mais c'est vraiment un beau message en fait. Et j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose. Et même si j'arrive pas à l'admettre, parce que je me dis est-ce que je le mérite ou pas, il faut même pas que je me pose ces questions. Je veux dire là, c'est véridique, c'est la vérité. Il faut que je fasse honneur à ça. Et je ferai tout ce que je peux tout au long de ma carrière, qu'elle soit longue ou courte, je sais pas, mais à chaque fois que je ferai quelque chose, que j'irai faire un concert, que je le ferai toujours dans le but de rendre cet amour qu'on m'a donné, parce que c'est tellement incroyable. Et c'est vrai que en même temps, quand j'ai vu le score, je me dis, voilà, Mika, à la super finale, c'est quand même un super gars. J'ai eu mal pour lui parce qu'il méritait quand même aussi. On méritait tous les quatre. On s'est porté tous les quatre vers le haut tout le temps. Je voulais pas qu'il pense qu'il était en dessous ou quoi que ce soit, parce que c'était plus fort que ça. Je veux pas qu'il doute de lui, quoi, parce qu'il a été excellent tout au long de l'aventure aussi, quoi. Donc j'ai pensé à eux aussi. Quand j'ai vu le score, je me suis dit, les pauvres, ils méritaient aussi, quoi.
Mais oui, mais après, t'as peut-être plus convaincu le public que les autres. Voilà, t'as ta place, t'es là.
Ouais,
toi
ouais.
Qui étais magasinier, t'étais retrouvé sur la scène comme ça. Les auditions à l'aveugle, comment tu les as vécues, justement? Est-ce que t'as été envahi par ce trac qui envahirait presque toute personne normale, on va dire, quand on voit ces quatre fauteuils tourner, qu'on se dit, voilà, pourvu qu'il y en ait au moins un qui se retourne?
Ouais, c'était probablement l'un des moments les plus forts parce que c'est la première fois. En fait, le moment le plus difficile, c'est quand l'écran se lève en fait et qu'on doit avancer jusqu'au micro, parce que là déjà, bon, c'est une émotion très très forte. Moi, je me rappelle avoir senti une boule au ventre qui m'est remontée jusque dans les yeux, où j'avais envie déjà de pleurer de je sais pas quoi. C'était très fort, et surtout qu'en plus au moment où on avance, en fait, on a le silence assourdissant qui nous accompagne jusqu'au micro. On nous avait prévenu que c'était normal, mais c'est très impressionnant le fait qu'il n'y ait pas un bruit sur le plateau.
Ouais.
Et voilà, ça fait partie du truc, c'est normal. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai sorti la première note, après c'était bon. Et puis je me souviens qu'au moment où j'ai senti les larmes arriver avant que ça commence, je me suis dit, écoute, ça va durer 2 minutes 30, ça sera peut-être le seul moment de ta vie où ça va arriver. Profite de chaque instant, prends tout ce que tu as à prendre parce que c'est incroyable. Et comme ça, tu auras des choses à raconter après, ne serait-ce que
bah oui,
l'aventure sur l'aveugle et tout ça. Et au coup de bol, bon, ben, j'ai eu l'embarras du choix. Et puis,
qu'est-ce que tu as fait sur d'ailleurs?
Alors Zazie, je souhaitais de tout cœur qu'elle se retourne parce que c'est elle que je voulais absolument, si j'avais le choix. D'ailleurs, je m'en étais pas caché hein, parce que je l'avais dit dans les coulisses, hein, on m'avait demandé. J'ai dit, moi, je veux Zazie à tout prix parce que déjà, Zazie, c'est la légende, quoi, la 30 ans de carrière. J'adore sa façon d'écrire les chansons, sa personnalité, et surtout elle dégage une sincérité, quelque chose qui fait que quand je la regardais, en fait, j'avais l'impression que en discutant avec elle, j'allais être à l'aise. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous l'expliquer ou quoi, et peut-être que je me trompais. Puis il y avait ce lien aussi quand on est petit. Je me souviens, par exemple, le matin, je vais déjeuner pour aller à l'école, pour prendre le bus, tout ça. Il y avait la radio et j'entendais ces chansons à la radio. Et quand j'entends ces singles de l'époque, j'ai ces images qui reviennent. C'est un lien quelque part un peu.
Ouais.
Que j'ai pas avec les autres, quoi.
Et oui, c'est ça.
Donc tout ça à la fois.
Mais tabou.
Je pouvais pas en choisir un autre.
Est-ce que t'as une prestation qui t'a marqué plus que les autres sur toutes tes prestations, entre les battles, ton audition à l'aveugle, tes prestations de fin, justement du prime final? Est-ce qu'il y en a une qui ressort là que t'oublieras jamais?
Je pensais que c'était SOS Terrain Détresse parce que j'en gardais un souvenir monstrueux et je sais qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là sur le plateau. Et c'était le moment où j'ai montré que j'avais une voix particulière et que je pouvais faire des trucs avec ma voix. Alors c'était pas forcément dans l'émotion, mais c'était des démonstrations, mais il fallait vous montrer que je pouvais faire ça. Mais après, avec le recul, quand j'ai revu les Supercross où j'ai chanté Caruso, je me souvenais pas en fait que je l'avais chanté comme ça parce que j'étais tellement stressé de chanter face à l'humaine Nae.
Ouais, t'as pas réalisé la performance que t'as fait.
Non, voilà, parce que moi en fait j'étais dans l'urgence, j'étais un peu dans la panique parce que lui il venait de faire un morceau d'Adèle avec tout l'orchestre. Faut dire que sur le plateau, c'est les gens qui votent et qui sont sur le plateau. Et la puissance du son quand il y a tout l'orchestre, je veux dire la batterie, les synthés, les machins, c'est super puissant. Et moi j'arrive avec mon petit piano-voix juste après, j'étais pas confiant du tout. Et la preuve, le public avait voté pour lui. Et s'il n'y avait pas eu Mika, j'aurais perdu. Donc j'ai eu de la chance. Et puis je gardais en fait ces souvenirs de stress, en fait d'urgence un peu. Et je me souvenais pas que je l'avais chanté avec autant d'émotions et tout ça. Et je pense que celle qui va rester, c'est pas SOS, mais c'est bien Caruso.
On va parler du futur quand même avant de se quitter. Bah comment tu vois les choses? Il y a déjà le Tribute to Queen sur lesquels tu continues à œuvrer. Mais est-ce que t'as déjà envie, en tout cas, de ce premier album qui va te tendre les bras d'ici quelques mois?
Ah ouais, alors je reconnais encore une fois, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours de The Voice, et là je touche du bois, j'ai quand même une chance monstrueuse, parce que je sors de The Voice avec beaucoup de projets. Là, voilà, ce qui se passe, c'est que à partir de septembre, je vais faire quelques dates en France, par-ci par-là. Pour l'instant, j'ai aucune ville. Enfin, je peux pas vous dire, je sais pas du tout, mais je sais qu'il derrière ça bosse beaucoup pour que je puisse me balader un peu partout, pour aller déjà rôder. L'Olympia qui arrive le 5 juin l'année prochaine, et ça, rien que ça, c'est complètement dingue.
Aïe, aïe, aïe.
Donc on va. Donc là, on va faire ça. Donc ça sera des chansons, des grandes chansons connues, mais réarrangées avec. Apparemment, ça va être un truc de dingue, ça va être épique et tout, ça va être un truc de fou.
Donc 5 juin 2024, dans un an, tu seras sur la scène de l'Olympia, dans un peu moins d'un an, avec certainement un premier album aussi que tu auras à défendre sur scène, du coup.
Alors voilà, ben j'y viens. Et donc en fait, voilà, donc il y aura ça en septembre jusqu'à janvier. En janvier, je vais avoir donc la tournée des 500 voix chante Queen. Donc là, ça va être dans la plupart des zéniths de France. C'est un truc de dingue déjà. Mais franchement, c'est un truc de fou. Je vais faire ça, voilà, jusqu'au mois d'avril. Et entre-temps, il va falloir que je prépare l'album. Alors, vu que ça, je l'ai pas mis en avant sur The Voice, mais je fais de la batterie, je fais du piano, je fais de la guitare, j'ai tout. Ça, c'est comme le chant, j'ai toujours fait ça de manière autodidacte. Et je me sens capable d'écrire. Alors, je sais pas si ça sera bien ou pas, mais je vais essayer d'écrire mes propres chansons et de composer
aussi, du coup.
Voilà, c'est ça. Donc, j'ai des idées bien précises de ce que j'aimerais partager. Donc voilà. Et après, si à l'Olympia j'arrive et que j'ai déjà une ou deux chansons, ben, bien sûr qu'on les mettra. Mais sinon, après, je sais pas, ça va se faire. Il y a beaucoup de flou encore parce que c'est frais tout ça.
Bah bien sûr.
C'est complètement fou, quoi.
Écoute, ça te donnera l'occasion de revenir dans Chut, on écoute ta télé. Évidemment, on va te suivre, on va suivre ton parcours. Et puis, on se rappelle évidemment très vite pour de nouvelles choses. On sera là, évidemment, pour toi, pour t'accompagner tout au long de ces mois qui t'attendent, en tout cas.
Ça sera avec plaisir.
Bon, merci beaucoup Aurélien d'avoir été avec nous. On rappelle, grand gagnant de The Voice saison 12. Merci beaucoup et à très vite Aurélien.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, nous vous proposerons une émission exceptionnelle tournée intégralement au Festival des Héros du Cinéma du Cap d'Agde. On va vous la préparer tout au long de cette semaine. Vous pourrez nous suivre d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram. Chute, on écoute la télé avec de nombreux invités.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure. 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Orcharente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.